sont tous des insurgés et des insoumis qui se révoltent. Donc, on peut peut-être commencer par parler de cette notion de révolte qui est souvent entraînée par un sentiment d'injustice, que ce soit la justice personnelle ou la justice de la société. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. C'est une société là aussi dont les règles paraissent tout à fait étonnantes.
Oui, c'est une société où en fait on va son métier en fonction de sa date de naissance. Donc si on est né en janvier, ben, on a les métiers qui font un peu rêver, chanteur, acteur, tout ça. Et puis plus on avance dans l'année, moins ça coule. Et quand on arrive en décembre, on a ce que les autres n'ont pas voulu. Forcément, dit comme ça, ça paraît complètement injuste, mais qui est le fils
premier siècle de notre ère qui a vraiment existé. Et elle nous est parvenue aujourd'hui à travers les écrits des Romains, parce qu'elle s'est révoltée à un moment. Elle a rasé de nombreuses villes, elle a failli mettre les Romains et l'Empire romain bouter en dehors de l'île d'Angleterre. Malheureusement, elle n'a pas réussi. Mais là, on est vraiment sur en plein dans la thématique. Moi, je voulais répondre sur ce personnage historique méconnu. Qu'est-ce qui fait à un moment qu'une personne se révolte déjà à titre individuel et emmène avec lui tout un vent de révolte, alors qu'en sachant que Reine Boudica, c'est une reine qui est installée, elle n'est pas malheureuse avec les Romains, elle a une situation privilégiée, elle a des liens commerciaux, et quand même, bon, il y a des événements qui vont faire qu'elle va être humiliée, qu'elle va être flagellée, et ainsi de suite. Mais à un moment, qu'est-ce qui fait qu'un individu se révolte et devienne une figure de révolte, et surtout emmène avec lui un vent de contestation assez fort pour raser la plus grande ville de l'époque. Ça, c'est intéressant, parce qu'avant d'être la légende telle qu'on la connaît, là, c'était personne comme vous et moi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est révolté? C'est ça que je voulais interroger.
Oui, et ça, on en reparlera, parce que c'est vrai que Boudica, à un moment, l'empereur lui fait une offre qui est tout à fait correcte. Comme les autres rois, elle garde son job. Elle continue à régner sur sa tribu. Comme il commerce déjà avec les Romains, finalement, pas grand chose ne change, à part une situation qui, nominalement, devient une situation subordonnée. Mais ça ne change pas grand chose.
Oui, parce que chef d'entreprise est salarié, grosso modo, mais finalement, ça ne change rien pour elle.
On reviendra quand même parce qu'il y a une réaction. Parce que vous parlez juste maintenant de la manière dont est-ce qui fait que, quel est le déclic qui fait basculer. Et dans le roman, c'est finalement quelque chose d'extrêmement trivial.
Mais globalement, parce qu'on est sur un événement, en fait, une mésentente au départ du paiement d'une taxe. Parce que voilà, donc du coup, le fait d'être assujetti à l'Empire romain, on leur laisse la place au roi celte, mais il faut s'acquitter d'une taxe. Et l'Empire romain, les celtes n'ayant pas tout à fait les mêmes conceptions, notamment l'héritage de quand un roi meurt qui récupère l'autorité. Soit par la mort de l'époux, donc du roi de Boudica, qu'elle a pu s'être reine à part entière, donc du coup il lui impose des règles beaucoup plus drastiques parce que c'est une femme. Donc, mésentente, évidemment, et elle va avoir raison. Donc, on va lui donner raison, mais quand même le gouverneur, pour se venger, doit gérer son orgueil, va lui faire subir un affront. Je ne dévoile pas tout, mais voilà, un affront public face à la reine battue, enfin voilà. Donc finalement, pour l'orgueil d'une personne qui n'a pas accepté d'avoir tort vis-à-vis de ses hommes, en fait, et bien voilà, ça va être le début d'une révolte. Et je me demande si globalement, tous ces grands moments d'histoire, en fait, notamment liés autour d'une révolte, eh bien, ça ne commence pas avec des moments insignifiants. C'est justement parce que c'est des moments insignifiants et que personne n'a l'intention de faire attention à ça. C'est l'étincelle qui peut démarrer.
On est toujours dans Charakai. Là aussi, c'est la révolte contre l'ordre établi, le pire des ordres établis, puisqu'on a réussi plus à se débarrasser des rois. Les gouvernants sont immortels. Alors là, c'est vraiment la fin.
Yeah, so in 12 Kings and Charakai, there are 12 kings who rule over the desert city of Charakai and the desert beyond, and they are mortal, and they became immortal. They weren't so until about 400 years before the story opens. They make a deal with the gods of the desert, and once we get to the where the story opens, they have ruled for a long time, and they ruled very cruelly so that they can maintain their power. see both in the story. One of the, because of the kings and the way that they rule so cruelly, there's naturally a resistance against them. You know, and I think the difference between individual rebellion and mass rebellion is simple communication, simple understanding, and feeling like you're part of a group. And that's what happens with a group called the Moonless Host. So they do rebel against the kings, but they do so in such a way that they're trying to match the king's cruelty. They are as harsh as the kings because they feel they must be. And maybe they do. Who knows? But Shaeda, the main character, doesn't see it that way. She rebels in another way. She refuses to join the Moonless Host. She doesn't believe that things should be as harsh as the king's. She doesn't believe that her cruelty should match theirs. And so she is actually caught in the middle to a degree. And she takes that strictness from her mother. Her mother refused to bend. She eventually was killed by the kings for it. But she still refuses to give in to what the Moonless Host is doing. She stands by her own ideals and fights in her own way. It's the end of the festival.
Quand on est 12 rois de Charakai, on suit donc ces 12 monarques qui règnent en maître donc sur la ville de Charakai qui se situe à peu près au milieu du désert et puis qui règnent aussi sur les territoires alentours. Et donc ces 12 rois étaient à l'origine mortels, mais ils sont devenus immortels parce qu'ils l'ont voulu. Ils sont devenus immortels à peu près 400 ans avant le début de l'histoire sur laquelle je me centre. Et ils sont devenus immortels en passant un pacte avec les dieux du désert. Et donc, quand l'histoire débute, eh bien, justement, leur règne impitoyable dure depuis justement plusieurs siècles. Ils règnent avec beaucoup de cruauté, justement, pour garder la mainmise sur leur peuple. Et comme le disait justement très judicieusement Jean-Luc, il y a effectivement cette dichotomie entre la rébellion collective de masse et la révolte individuelle. Et donc, dans ma série, Les 12 rois de Charakai, eh bien, ces deux types d'intrigues s'entremêlent. Parce que d'un côté, vous avez donc les gens qui, sur le plan individuel, décident de résister, d'entrer en résistance contre le régime de ces rois très très cruel de manière naturelle et spontanée. Et puis vous avez aussi un groupe, un mouvement qui s'appelle donc les Autres sans Lune, qui sont donc un groupe de rebelles qui veulent justement renverser les rois, mais qui s'organisent. Et je crois que justement la différence qui fait la différence entre la rébellion sur le plan individuel et la rébellion collective, c'est justement la communication et la compréhension, cette idée d'appartenance à un groupe. Et donc les Autres sans Lune se révoltent, mais pour renverser les rois, ils décident de rivaliser de cruauté avec eux parce qu'ils pensent qu'ils ont à être aussi purs que les rois pour pouvoir les éradiquer. Et alors la protagoniste, elle, Shaeda, elle justement, elle n'est pas du tout d'accord avec ces méthodes-là, elle les refuse. Elle ne croit pas qu'il faille être justement aussi dur et cruel que les rois pour réussir à s'en débarrasser. Donc elle se retrouve un petit peu prise entre deux feux. Et donc cette espèce de rigueur, morale qu'elle a, elle l'a héritée de sa mère, qui était une femme, une grande guerrière, qui alors a
destin individuel tel qu'il est arrivé. Alors là, par exemple, Karina Rosenfeld, je pense au feu secret et à la cité secrète, dans lequel c'est la révolte contre le destin personnel. On sait qu'on va mourir à tel âge et on le refuse.
Oui, alors, cette biologie est un peu particulière, parce que je l'ai coécrite avec une auteure anglaise. Donc, on a chacun créé un personnage. Elle a créé le personnage féminin qui est anglais, et moi, le personnage masculin qui est français. Et donc, en particulier, c'est ce personnage-là qui a ce destin. Il est sa famille depuis. Il est le 13e fils premier-né, donc depuis toutes ces générations, est victime d'une malédiction. Tous les fils premier-nés meurent le jour de leurs 18 ans. Par contre, ils ont une particularité, c'est qu'ils ne peuvent pas mourir avant ce jour-là. Donc, Sacha, le personnage, comme il sait qu'il ne peut pas mourir, et qui sait qu'il va mourir à 18 ans, donc, pense que s'impliquer dans sa vie quotidienne n'a aucun intérêt quand on sait qu'on va mourir. Aller au lycée, tomber amoureux, laisser sa famille s'attacher à lui, il ne voit pas l'intérêt de tout ça, parce qu'il se dit que ça va se terminer bientôt. L'histoire commence quelques semaines avant son anniversaire, donc la fin est proche. Et donc il fait beaucoup de bêtises, il se prend des balles dans la tête, des trucs comme ça. Et voilà. Et c'est vrai qu'en même temps, il se dit, j'ai pas le choix, c'est arrivé à tous les premiers nés depuis, je suis le 13e, à qui ça va arriver. Donc, voilà, je vais le subir, et d'un autre côté, un jour, il y a une lueur d'espoir qui arrive, grâce à un personnage féminin, qui lui laisse entrevoir la possibilité que ce destin n'est pas finalement aussi définitif que ce qu'on lui fait croire depuis toujours. Et là, d'un seul coup, ça change tout. Finalement, la vie peut peut-être continuer, et là, c'est la rébellion contre son destin, se dire, eh bien alors, aussi mince cette chance soit-elle, je vais tout mettre en œuvre pour réussir à contrer la malédiction. Et là commence l'aventure vers quelque chose de différent, avec d'autres luttes. Mais c'est vrai que tout commence parce qu'il a envie de se rebeller contre ce destin un peu particulier.
C'est la même chose, Manon Forchetson, d'une certaine manière, dans dans l'héritage des rois passeurs, avec Raven, la princesse noire, je lis mal mes notes, il faudrait que j'écrive mieux. Donc Raven, elle aussi, c'est une rebelle, d'abord parce qu'elle veut pouvoir assumer sa sexualité telle qu'elle le veut, donc c'est pour ça qu'elle s'est rebellée, qu'elle est partie, et ensuite elle revient parce qu'elle veut continuer d'assumer sa sexualité, tout en ayant son héritage.
Alors, on a eu une conférence sur le thème de l'homosexualité dans l'imaginaire hier, donc c'est vrai qu'il y a cette question-là, mais en fait, je pense que pour Raven, la question est moins sa sexualité qu'elle ne veut pas qu'on lui impose les choses. Donc, effectivement, elle aime les filles, et effectivement, à 17 ans, son père veut la marier avec un homme, donc elle choisit de partir, de fuir, avec sa copine de l'époque d'ailleurs, et elle sera absente du royaume pendant 8 ans. Mais ça aurait été la même chose si elle aimait les garçons et qu'on lui avait imposé un garçon qu'elle n'aimait pas. À la limite, c'est la même chose. C'est pas la question de sa sexualité pour moi qui l'a fait partir. Et elle revient, effectivement, 8 ans plus tard, donc au début de l'héritage des rois passeurs, parce que sa mère, la reine, va mourir et qu'elle décide de rentrer prendre son trône. Elle est l'héritière légitime du royaume, mais voilà, elle décide de rentrer dans son trône. Évidemment, personne n'est content. Il n'y a ni sa petite sœur qui peut prendre sa place, ni son père qui avait préparé sa petite sœur, ni les prêtres du royaume, les mages du royaume. Personne n'est content. Mais elle est bien décidée à le prendre. effectivement, il y a une grande révolte dans le personnage de Raven. Mais en fait, dans l'héritage de roi passeur, il y a un autre personnage qui a une révolte peut-être encore plus intime, qui est Jana. C'est un personnage un peu secondaire, mais pas si secondaire que ça. C'est le personnage d'une peintre qui travaille dans le château et qui va se retrouver confrontée à Raven à un moment donné. Mais c'est une peintre qu'un mage assez puissant du royaume a aidé à un moment donné. C'est lui qui a découvert ses talents et il l'a aidé à intégrer la maison des arts, etc. Et donc elle lui est redevable de plein de choses, et lui qui est maintenant à la tête des magiciens du royaume en profite pour lui demander d'espionner la princesse quand la princesse revient. Et donc c'est toute sa révolte à elle personne qui m'a aidé, mais à qui je n'ai rien demandé au départ. Est-ce que je lui dois quelque chose? Est-ce que je continue à espionner la même de cette manière pour lui, alors qu'au final, je ne suis pas forcément d'accord avec lui? C'est tout ce. Elle est dans ce dilemme-là qui dure tout le roman, je ne vais pas vous spoiler. mais pour moi, le personnage, c'est presque le plus révolté, elle est révolte la plus intime, c'est elle.
Dans les illusions, sa gloire qui se déroule dans le même monde qui est celui d'ombre bleu, quelque part, dans notre personnage principal, elle aussi, elle se révolte, elle est aidée en cela contre le destin qui lui est prévu, qui est prévu pour elle, qui est d'être une esclave, jouée d'un seigneur mauvais, et sans pouvoir utiliser ce qu'elle a.
Alors effectivement, c'est un univers où les magiciennes, elles, sont traquées, n'ont pas le droit d'utiliser la magie, etc. et possèdent une ville, savoir, qui se trouve dans le royaume d'ombre, et qui est leur avoue, personne ne peut les atteindre. Donc de vol bleu, quand ses pouvoirs se déclenchent, elle est au bout du monde. Donc il faut d'abord revenir à sa gloire, ça prend un petit moment. Mais bleu, au départ, elle est esclave, elle a été esclave depuis des années, depuis toute petite. Elle est effectivement achetée par un seigneur assez cruel en compagnie d'autres esclaves. Et elle a ce. Je ne sais pas si elle est dans la révolte bleue au départ. Moi, je ne la sens pas révoltée au départ. Au départ, elle accepte sa condition. Mais voilà, au moment où ses pouvoirs se déclenchent, ses pouvoirs sont tellement puissants que tout le monde autour, ceux qui sentent ses pouvoirs, que ce soit des magiciens ou autres, vont la forcer à se révolter, puisqu'ils vont la sauver presque malgré elle au départ. Est-ce qu'elle veut vraiment être sauvée? Moi, j'en suis pas sûre. Ils vont la sauver presque malgré elle, et ça va être toute une reconstruction ensuite pour accepter ce qu'elle a. Et là, il va y avoir une part de révolte qui va aller avec son adolescence aussi. Mais au départ, Bleu, c'est pas une révoltée. Je dirais que elle en est presque plus, mais aussi c'est l'autre personnage principal des illusions de savoir, qui, elle, au départ, est une opportuniste totale, égocentrique, qui ne pense qu'à elle et à ses intérêts, mais qui va peu à peu évoluer dans sa vision du monde, dans sa vision des autres, dans son rapport aux autres. Mais si elle est comme ça au départ, c'est parce qu'elle est révoltée, c'est parce qu'elle est une femme dans un monde d'hommes et qu'elle n'accepte pas la position qu'on lui demande de tenir. Et donc elle part, et donc elle a cette vie d'indépendance où elle se sert des autres. Les autres sont ses protecteurs, mais elle les prend, et puis elle les jette, et puis elle en prend un autre, et puis elle le jette. Mais c'est une forme de révolte aussi.
Exactement. C'est ça qui est tout à fait, qui est tout à fait intéressant, c'est de voir comment chacun d'entre vous fait évoluer ses personnages et montre comment on fait la révolte. C'est ce que les Beaulieu disaient tout à l'heure. Ça peut venir de n'importe quoi, finalement. Et l'élément déclencheur peut être quelque chose de passé inaperçu sur le moment. Par contre, Jean-Laurent Del Socorro, vous avez beaucoup parlé là de Boudica, qui effectivement est le personnage de révolté et qui commence, d'ailleurs, on le voit dès la fête de se révolter, dès sa tendre enfance. C'est une petite fille, ce qu'elle veut, c'est apprendre le maniement des armes, etc., pour être comme un garçon, en fait, comme un homme.
Alors, plus exactement, c'est ça. C'est pas pour être comme un garçon, c'est pour être comme un guerrier. On est plus sur une logique de place, en fait, au départ. Elle est dans une caste noble. Sur les nobles, on peut être dirigeant, on peut être guerrier, donc il y a plus de liberté, en fait, après, sur le. Même commerçants qui ont des positions très enviables au niveau des Celtes. Mais sur ta clause, donc 3. Et la dernière s'appelle la reine des systèmes. Donc dans les deux parties, effectivement, elle veut exister en étant autre chose, non pas comme la fille du roi, mais bel et bien comme une héritière, comme une guerrière, comme une nouvelle identité. On est sur un combat de la jeunesse, mais ça rejoint un peu ces thématiques-là. Elle a envie d'être elle-même, elle n'a pas envie d'être quelque chose qu'on lui impose. Alors, de toute façon, quand elle est inéluctable, elle n'a pas un choix qui s'offre à elle. La deuxième, c'est avec l'arrivée des Romains. C'est là-bas, il y avait l'équilibre homme-femme au niveau des sept. Les Romains commencent à imposer leurs règles. Et elle se rend compte qu'elle va devoir se battre pour quelque chose qui était un acquis. Et là, malheureusement, on est sur une thématique qui est très contemporaine. Elle a le droit d'être femme et reine. Elle a le droit d'être une femme de pouvoir. Elle n'est pas la femme de. Elle est reine à part entière. Et quelque chose qu'elle n'avait pas revendiqué jusque-là, elle va devoir le revendiquer avec l'arrivée des Romains. Donc c'est à nouveau un combat personnel qu'elle mène. Et voilà, et sur la troisième partie, par contre, on passe sur quelque chose de plus global. Elle incarne quelque chose qui la dépasse, parce qu'elle va représenter son propre clan. Et là, c'est là où ça bascule la vie de son combat individuel. Et là, quand les gens dont j'ai la responsabilité sont écrasés, qui ont confiance en moi, qu'est-ce que je fais? Et là, du coup, c'est plus un choix personnel qu'elle prend, mais c'est un autre choix. Mais c'est vrai qu'au départ, toute la création se fait sur notre rôle identitaire individuel.
Maintenant, Fabio Ton faisait allusion à une table ronde que nous avons eue hier sur l'homosexualité imaginaire. Il y a quand même dans ces royaumes de vent et de colère, il y a une révolte tout à fait particulière. Il semble que justement la volonté de pouvoir vivre sa sexualité librement soit aussi incitatif à la révolte puissante, parce qu'on a quand même ce couple de Roland et d'Armand qui sont des harponnières, vous avez expliqué, vous avez ce que c'est, et qui se sont révoltés contre l'ordre religieux auquel ils appartenaient pour pouvoir vivre ensemble leur amour.
Ah oui, tout à fait, là on est, oui, j'avais complètement oublié, mais c'est une excellente remarque, on est vraiment sur un bel exemple de... sur le royaume de Vincolas, donc il y a, on est dans l'état de religion, il y a une part de magie là, qui est plus présente, c'est l'arbon, c'est une pierre noire, qui a une particularité, elle est très rare, et l'utiliser, c'est assez sale, puisqu'elle est addictive comme de la drogue, et elle est aussi dangereuse que la radioactivité, donc elle vous pourrit les gens qui sont autour de vous. Évidemment, c'est très puissant, donc on va quand même l'utiliser, notamment pour des fins militaires, et en France, c'est des ordres religieux qui regardent secrètement l'utilisation. On va suivre un de ces maîtres harbonniers qui va se rendre compte qu'on lui demande de former des jeunes apprentis harbonniers comme arme de guerre, alors que lui au départ est un autre soigneur. Donc ça c'est déjà la première chose qui le met en difficulté, mais ce qui va vraiment le faire basculer justement sur un effet de révolte et de fuite, c'est la tombe amoureuse d'un de ses élèves. Donc ordre religieux au Moyen-Âge, qui va une relation homosexuelle, c'est autant dire que ça va être très, très compliqué pour eux. Ce double choix de choisir de vivre leur amour, de vivre ce qu'ils sont au plus simple, et de ne pas avoir assumé finalement cette responsabilité aberrante d'avoir un pouvoir qui pourrait soigner et qui utilise à des fins destructrices, et bien ils vont faire un choix personnel, de cesser de fuir, de partir. Pour eux, ne serait-ce pas d'abord définitivement égoïste. Voilà, ils ont besoin de vivre ensemble, ils ont besoin de s'éloigner de tout ça. Et à travers ce choix-là, au départ, c'est un choix d'amour, et bien, ils vont être attrapés par l'histoire et vont finalement devoir avoir un choix plus engagé, parfois un peu tragique sur le destin et de Marseille et du roman lui-même.
knows how dangerous the city is. He knows that Shayna's mother died. He was, in fact, the one to find her and let Shayna know that she had been hung at the front gates of the city. But there's a secret that Emery's keeping from Shayna, and it's part of what leads him to the Moonless Host, the rebellious group. And so I think what happens to him, it's a reveal, so I won't go into the details, but it stems from helplessness. A major event happened to him when he was young, and he feels like he cannot do anything about it because he failed. He failed someone that he loved. He failed to protect them. And that finally boils over at some point in the book. And so I think that's where a lot of it can come from, rebellion in general, either a feeling of helplessness in yourself or maybe a feeling of helplessness for other people. One other group that I'll mention quickly are the Asirim, which are a group of mummified-like creatures. They are immortal as well, but they were once human, and they come into the city once per month when the twin moons are full, and they take tribute, they take lives, and they bring them back out to the desert. And we don't know why when the story opens that's happening, but we do also know there's a personal relationship, I'll leave it at that, between Shayna and the Asirim, and so she sees their helplessness, their fate that we talked about earlier was robbed of them. And so she eventually fights for them. She's fighting for their fate. She's also fighting for the fate of the people that she knows, for herself, trying to avenge her mother. But I think that's what sparked her, and that helplessness forced her to act.
Donc la protagoniste, Shayna, elle a environ 19 ans quand on la rencontre dans le roman. Et donc, je le disais tout à l'heure, bien sa mère a été tuée quand elle avait à peu près 8 ans. Et elle ne vit plus avec sa mère, elle vit avec son meilleur ami qui s'appelle Emery. Et ça fait un certain moment qu'ils vivent ensemble. Et on découvre petit à petit qu'Emery est très très protecteur envers Shayna. Parce qu'il a conscience que la ville, la cité de Charakai est très 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 dangereuse. Il sait aussi que la mère de Shayna est morte dans des conditions vraiment dramatiques. C'est d'ailleurs lui qui a découvert le cadavre de la mère de Shayna et qui a annoncé la nouvelle de Shayna, qui lui a annoncé que sa mère avait été pendue, qu'il avait retrouvé sa mère pendue de manière très ostentatoire sur les remparts de la ville. Mais en même temps, il a conscience qu'il y a un secret qui est un petit peu, qui a un voile de mystère sur ce qui s'est passé dans la vie de la mère de Shayna et que Shayna ne lui dit pas tout. Et je crois que c'est un petit peu, cette distance qui se crée entre lui et Shayna à cause de ce secret qui le mène à rejoindre le mouvement des autres sans lune. Je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que ça, c'est, vous le découvrirez en lisant le roman. Et je crois aussi que cette révolte qui gronde en Emery, elle puise aussi son origine dans une sorte de sentiment de désespoir qui l'habite. Parce que lui aussi, il lui arrive des choses tragiques quand il était très jeune. Il a ce sentiment d'avoir échoué, de ne pas avoir réussi à sauver une personne qu'il aimait énormément, de ne pas avoir réussi à la protéger. Et donc, je crois que cet esprit de révolte, en général, naît justement ce désespoir et ce sentiment de ne pas avoir été à la hauteur, soit par rapport à vous-même, par rapport à d'autres personnes que vous aimiez. Et donc, dans le roman, on suit aussi un autre groupe humains qui sont plutôt leur, à leur merci. Et on découvre aussi petit à petit que, eh bien, tout comme Tchida, ces Azirim, eh bien, ils se sont fait dérober leur, leur identité. Et donc, en définitive, eh bien, Tchida, la protagoniste, elle se bat donc à la fois pour elle-même, à la fois pour venger sa mère, à la fois pour libérer la ville de la tyrannie des rois, et aussi pour les Azirim. Et tout ça, comme je disais, ça, ça naît de, c'est le désespoir qui est son moteur.
Je n'avais pas voulu parler des Azirim parce que j'avais peur de spoiler un petit peu, mais là, puisque c'est l'auteur qui l'a fait maintenant, très bien. Alors, avant de continuer, il y a quand même, là, nous avons parlé pour l'instant que de personnages qui sont humains, même s'ils ont des pouvoirs, etc. Basiquement, ils sont humains. Alors, Karina Rosenfeld, vous avez quand même vous fait quelque chose de très intéressant, c'est que dans Zalim, Zalim, c'est pas un humain, et pourtant il se révolte lui aussi.
C'est un démon. Donc là, on est dans une histoire encore très différente des deux autres. J'aime bien faire des choses très différentes. Zalim, c'est dans une histoire de fantasy où deux royaumes s'affrontent depuis très longtemps. En général, le royaume d'Arendal, qui est là où se passe principalement l'histoire, gagne la guerre depuis toujours, à peu près. Et là, cette fois, ils sont en passe de perdre. Donc, ils décident, difficilement, parce que c'est dangereux quand même, d'utiliser leur arme secrète, qui est un démon qu'ils doivent invoquer, et qui est très fort et sanguinaire. Et, voilà. Et donc, quand on invoque ce démon pour pouvoir vivre dans le monde, dire, il doit investir un autre humain. Il ne peut pas vivre sous une forme éthérique, on va dire, dans notre monde. Et donc, il doit habiter un autre humain et il doit choisir en fonction de critères qui lui sont propres. Et sauf que l'humain qui va être investi par le démon n'a pas conscience de ça. Donc, il ne le sent pas. Quand le démon se transforme, il ne s'en rend pas compte. Il y a une espèce de blackout total. Et du coup, l'histoire de ce premier tome, en tout cas, puisqu'il y aura une suite qui sera à la rentrée, c'est qu'il y a toute une galerie de personnages qui sont susceptibles d'être l'hôte du démon, et on se demande, j'espère en tout cas, qui est l'hôte du démon. Voilà, et donc là, on arrive au début de l'histoire où le démon va être invoqué pour pouvoir aider à gagner la guerre, sauf qu'il est incontrôlable, il peut aussi bien s'attaquer aux armées ennemies que aux armées amies, puisque c'est pas quelqu'un avec qui on peut communiquer en l'envoyant sur un plan com en disant tu vas aller là-bas, tu vas leur faire peur, tu vas les attaquer, tu vas dissoudre ta régiment, etc. Donc c'est un risque à prendre de le faire.
Mais il n'aime pas être assujetti.
Il n'aime pas être assujetti, il n'aime pas recevoir d'ordre. Voilà, en fait l'histoire c'est que sans le dévoiler dans l'autre, voilà, dans l'autre va découvrir qui porte le démon en lui, il va se dire que peut-être que Et voilà, donc pour moi, c'est pas le tout seul ne peut pas fonctionner pour moi.
Alors, je serai un peu plus, tempéré sur le dire de mon côté. Je pense que effectivement, les héros sont jamais tout seuls. Il y a toujours des gens derrière. Effectivement, on ne peut pas faire une révolte s'il n'y a pas des gens qui sont ou bafoués ou insatisfaits. Mais c'est vrai que quand même, malgré tout, c'est souvent un personnage. Enfin, c'est souvent une personne, en tout cas. C'est souvent un groupe de personnes. C'est vrai que c'est réduit à ça. Bon, évidemment, de là à dire que sur l'homme ou la femme providentielle, non. Pourquoi que Marseille, c'est une république catholique indépendante, donc peut-être effectivement sur Marseille, sur William de Vent et de colère. Mais la réflexion est intéressante sur le fait que, à un moment, peut-être effectivement que pour qu'une révolte aboutisse, elle a besoin d'avoir un visage ou quelques visages en fait qui portent l'identité. Et là, ça rejoint effectivement plus globalement l'idée politique, en fait. C'est que souvent on dit on n'arrive pas à s'identifier à un courant, mais parfois c'est peut-être aussi qu'on n'arrive pas à s'identifier à un meneur ou une personne. C'est pas propre à la droite, à la gauche, à la gauche. Je pense qu'on est vraiment sur une idée générale. La révolte, c'est pareil. Je pense qu'à un moment, on a besoin d'avoir quelqu'un dans lequel on se reconnaît, ou du moins sur lequel on projette notre révolte pour pouvoir assumer notre propre insatisfaction.
Et puis, tiens, peut-être pour qui on a une forme d'admiration aussi.
Oui, oui, tout à fait, t'as raison. Oui, tout à fait. De confiance aussi, en tout cas.
Sorry, I like the genre. All right. What I was saying about it not being one person, having other people that help. However, there's a long tradition in fantasy, especially of heroes and heroism. And we want to see, we want to watch people that have agency do things in a story. And we want their decisions to have effect. That's why we love it so much, because we live through them. They're doing things that we wish we could do. That's why we love heroes so much. But I also do like the notion of not so much people changing the world, but events changing the world. And it's many people that lead to different events. And one of my favorite types of stories, and what I strive to do, is you can question, you know, whether or not a single person can actually change the world. But if you have a situation that's already on the brink of change, that's what I like to do. I like to set a situation that is just ready to boil over. The pot is simmering. It's about to spill over and cause a wildfire when it hits the flames. And in those circumstances, one or very few people can absolutely change things because it's the beginning of a landslide. And that's the kind of thing I like to set up and then explore through my stories.
Oui, j'aime assez l'idée que vient de développer Jean-Laurent. Pour moi, il n'y a pas une seule figure comme ça qui va entraîner les autres et les aider à prendre le chemin de la révolte. Je dirais quand même que moi, je suis attachée à cette tradition assez ancienne dans la fantasy épique du héros, de l'héroïsme. On a tous envie de voir des gens qui ont justement assez de charisme, qui ont cette capacité à faire, à déclencher les choses. Des gens dont les décisions vont avoir de l'effet, de l'impact. On les aime, ces genres de personnages, parce qu'en fait, ils nous inspirent. On aimerait bien être comme eux, avoir cette force-là. Et donc, pour moi, en définitive, je ne sais pas si c'est vraiment les gens, les personnalités qui vont changer le monde, ce sont plutôt les événements. Et d'ailleurs, dans les histoires, les récits que je préfère, et puis, c'est aussi ce que j'essaie moi de recréer dans mes écrits, c'est justement de se demander mais, est-ce que c'est vraiment une personne qui va pouvoir changer l'ordre établi. Non, pas vraiment. Moi, j'aime bien justement choisir des situations qui sont comme ça un petit peu déjà ou un petit peu au bord du basculement. Les choses, c'est un peu la cocotte minute, quoi. Les choses sont déjà bouillonnent déjà tellement qu'elles sont à deux doigts d'exploser et puis déclencher un énorme incendie qui va vraiment tout changer. Et donc voilà, c'est ce genre de grands changements, de grands tremblements de terre, si je puis dire, que j'ai envie d'explorer.
Je repensais en écoutant les autres, je repensais en particulier à la symphonie des abysses, où alors effectivement, à chaque fois, dans chaque lieu où on s'arrête, on a un voix, éventuellement deux personnages qui sont contre l'ordre établi. Mais c'est parce qu'à un moment, ils vont tous se rencontrer et ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls à le refuser, qu'ils vont avoir la force d'aller plus loin. Donc je pense qu'on a cette individualité au départ de dire ah non, mais moi je vais chanter, je vais aimer, je vais toucher, les différents des autres, pourquoi est-ce qu'on impose tout ça, et ils partent effectivement de leur situation individuelle et de leur révolte individuelle pour pouvoir avoir cette volonté de fuir, mais la volonté de changer les choses, par contre, elle vient de leur regroupement et de la force qu'ils vont puiser les uns avec les autres en disant, je ne suis pas seule dans ce cas-là, il y a d'autres personnes qui pensent comme moi, et donc si je ne suis pas seule, si on cherche encore, on va en trouver peut-être d'autres et encore d'autres et encore d'autres, et c'est peut-être ça qui va faire qu'on va pouvoir faire tout changer. Donc, je pense que c'est un peu comme un virus. Ça commence, puis ça se répand, et c'est finalement le fait de se reconnaître en d'autres personnes qui donne la force de pouvoir changer. Parce que si on se sentait vraiment complètement isolé et qu'on sentait pas qu'il y a cette volonté de changer chez d'autres personnes, on dirait bon, ben voilà, tout le monde est heureux comme ça. Peut-être que c'est moi qui vais pas bien, que j'ai un problème, et donc je vais me calmer. Et puis, le fait de sentir ces difficultés, ces envies, ces besoins chez d'autres. Changements qui peuvent entraîner la volonté de tout bouleverser, de tout changer en disant ben voilà, finalement cette injustice elle pèse sur tout le monde, allons-y, essayons de changer les choses. Donc voilà, il y a pour moi cette individualité dans la réflexion personnelle et ensuite ce côté, la force, le nombre fait la force et c'est ensemble qu'on va y arriver. Voilà.
Donc si j'ai bien compris vos réponses, la fantasy n'est pas une littérature de droit, il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle, il n'y a que des catalyseurs, des figurines. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle la fantasy, c'est une littérature de gauche, une littérature révolutionnaire, et tout ça va à l'autre.
C'est une vraie question.
C'est une vraie question. Alors je vais revenir un mot sur le dernier, je ne sais pas si c'est une littérature de gauche sur la révolte, mais... Via Boudica, qui est quand même une réflexion autour justement de la soumission à la révolte, je pose clairement la question aujourd'hui, la
saying now about exploring, allowing us to explore our own modern day sensibilities and perceptions and biases is absolutely one of the things that I love about fantasy, because we can abstract it, right? We don't have to deal with it head on, and we can hopefully address it without all of the baggage that immediately comes when you start talking about anything, whether it's politics or religion or sex, racism, on and on. So, yeah, it's a level of distraction that hopefully people that have archaic views on some things can look at it, look at themselves, maybe learn something.
C'est vrai, comme le disait Manon, c'est que la fantaisie, eh bien, elle nous donne, elle nous permet de justement apporter un regard nouveau sur notre société moderne, sur notre sensibilité, sur les prédictions, ce qui pourrait se passer à l'avenir, et puis surtout les préjugés qui peuvent exister. Et c'est ça que j'aime, moi. Ce que j'aime justement à propos de la fantaisie, c'est qu'elle nous permet de faire ça, mais tout en utilisant justement l'abstraction, en se débarrassant un petit peu de tout ce bagage justement historique, social, etc., ou de réalisme qui peut parfois enrayer un petit peu les critiques qu'on pourrait faire sur ce qui est de la politique, de la religion, des sexualités, du racisme, tous ces sujets un petit peu, comment dire, polémiques. Donc c'est ce niveau d'abstraction, je crois qu'il est vraiment très précieux, et j'espère qu'il pourra amener certains lecteurs potentiels qui ont peut-être des vues un petit peu réactionnaires à justement réfléchir un peu sur eux-mêmes et peut-être à apprendre.
Je suis tout à fait mes collègues, je pense aussi. Enfin, je ne politise absolument pas mes romans, et donc pour moi, je ne me suis jamais posé cette question-là, parce que ce sont des, voilà, comme le dit Bradley, ce sont des archétypes qui vont transporter des messages qu'on espère faire passer à nos lecteurs au-delà de clivage politique, à mon avis, et de leur, les faire réfléchir, de les faire réagir, de les faire. De leur faire des connexions entre ce qui se passe dans notre monde. Des éléments qui ont été cités. Voilà, j'ai rien à dire. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est cette idée de dire d'abord, on raconte une histoire, on va divertir, et puis derrière, si on peut faire passer un message, faire réagir, faire réfléchir, c'est bien, parce qu'on n'oppose pas l'idée, on n'est pas là pour faire du prosélytisme, on est là pour faire rêver d'abord, avant tout, je pense. Et puis après, si on arrive à faire réfléchir et à faire avancer, c'est très bien aussi. Donc, voilà, on va soulever des questionnements, on va soulever des situations, et puis le lecteur va prendre ce qu'il a envie de prendre et réfléchir sur les sujets qui le font tilter en fonction de leur sensibilité. Donc, pour moi, c'est ça qui fait que c'est complètement universel, et à la fois, ça touche une diversité aussi grande de lecteurs, même si ensuite, on peut très bien avoir des débats houleux sur des questions politiques. Voilà, donc, c'est ce qui est intéressant dans toute cette littérature-là, c'est qu'elle est complètement ouverte et